Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast Made in USA. C'est le deuxième où on va parler de NFL et on va surtout parler de Thanksgiving. Avec moi, j'ai l'honneur d'avoir Anthony Coppi. Comment ça va ?
Très bien Maxime, et toi ?
Patrick Stein, moi ça va très bien, merci. On a aussi Patrick Stein qui sera avec nous via Zoom. Patrick, ça va, tu nous entends ?
Je vous entends très bien, bonjour messieurs, j'espère que tout va bien pour vous.
Bien sûr, et puis on a aussi l'honneur aujourd'hui d'avoir David Oudrey, un connaisseur de NFL.
Comment ça va David ? Je vais essayer de vous le prouver, connaisseur, je ne sais pas encore, mais tout va bien, tout va bien.
Eh bien on va voir si David connaît la NFL, on a une demi-heure pour en parler et pour parler de Thanksgiving, mais aussi pour parler de cette saison, et justement on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé jusqu'ici avec les coups de cœur. Et Anthony, j'ai envie de commencer par toi. C'est une saison très indécise.
Oui, c'est vrai. Je pense que ça, c'est la meilleure des nouvelles finalement. C'est qu'on a vraiment une saison où on est à la 12e semaine, donc sur 18 désormais, parce qu'on en a rajouté une. Et en fait, on est toujours incapable de déterminer un grand favori pour le Super Bowl. Généralement, on a 2, 3, 4 équipes où on se dit « Ok, celles-là, elles sont armées pour aller au bout ». Là, l'échantillon est beaucoup plus large et les différences entre les équipes sont assez faibles. Donc, on a de la bagarre dans tous les sens. Impossible à dire aujourd'hui, donc il y a des surprises tout le temps et on se régale chaque semaine en fait.
David,
d'accord. Il y a énormément de nouveaux quarterbacks et donc dans une saison normale finalement ça influe déjà, mais on connaît le contexte Covid, l'incertitude hebdomadaire autour de ça, autour de la préparation certainement aussi de cette nouvelle saison. Donc on s'y attendait pas tant que ça finalement, mais c'est vrai que ça reste une saison super indécise. Il y a quand même un leitmotiv, c'est que quoi qu'il arrive, ou en tout cas une saison tous les 50 ans, certes les Cleveland Browns arrivent à performer. Et donc, deux saisons d'affilée, c'est pas possible.
Pat, on parle des coups de cœur et de cette saison indécise. Et parmi les coups de cœur, il y a les Dallas Cowboys.
Ben oui, et encore, parce que voilà, c'était peut-être coup de cœur jusqu'à leur défaite de ce week-end, mais ça reste quand même un coup de cœur général, parce que c'est ça qui va être très compliqué si on va vraiment dans le détail, c'est de trouver de la régularité au sein d'une et une seule formation. Alors oui, moi je pointerais les Dallas Cowboys comme un des coups de cœur très certainement, parce qu'il y a de la prestation aussi bien collective qu'individuelle. Alors certes, ils ont perdu ce week-end, je le disais, face aux Chiefs, mais ils étaient diminués par des blessures aussi bien en défense qu'en attaque. Il n'y avait pas tout le casting qui était là, et ce ne sont pas des blessures graves non plus qui pourraient les handicaper à long terme. Donc ils resteront une valeur sûre jusqu'à la fin de la saison, je pense, les Cowboys. Et en plus, même si chacun ici autour de, allez, pour moi l'ordinateur et vous en studio, on a des équipes favorites, des équipes préférées, les Cowboys, ça reste une équipe marquante pour la NFL à tout niveau. C'est une équipe emblématique. Voilà, si des gens ne connaissent pas la NFL, ils connaissent quand même les Dallas Cowboys. Et donc, ça fait plaisir, très plaisir de les voir prétendre aux playoffs et peut-être plus loin aussi. Et ce serait une super nouvelle pour des spectateurs neutres de retrouver les Cowboys très, très haut en fin de saison.
Et on va en reparler un petit peu après, hein, des Cowboys, oui. Parce qu'il y a Thanksgiving qui arrive. Parmi les bonnes surprises, il y a aussi les Patriots.
Oui, exactement, qui sont assez complets. Je pense qu'on n'imaginait pas, en tout cas moi, je n'imaginais pas au moment où Brady est parti, qu'en fait déjà la saison qui suivait, en fait, donc deux saisons après, qu'ils allaient déjà se retrouver en mesure de lutter.
Il y a eu un peu l'effet LeBron.
Ouais, c'est ça. Oui, et normal, c'est normal. Je veux dire, on parle du plus grand joueur de tous les temps. À un moment donné, je veux dire, là, il n'y a plus de discussion à ce niveau-là. Mais Bill Belichick est resté fidèle à ses principes. Ça a parfois été critiqué, parfois à juste titre, notamment dans le match face à Dallas cette année. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a la défense, il y a un jeu au sol qui fonctionne, et pas forcément avec un seul joueur, ça c'est une nouvelle mode. Et surtout, au niveau des quarterbacks rookies, on en parlait.
Mac Jones. Ouais.
C'était le dernier choisi, et pour l'instant, c'est celui qui fait le meilleur boulot des cinq.
Quand on repense à la draft, moi, il y a toujours chaque fois que je le vois, chaque fois qu'on a fait la comparaison, Brady, Belichick, Belichick, Brady, c'est quoi le facteur X ? On l'a vu l'année dernière, Tampa Bay gagne grâce au numéro 12, ok. Mais Mac Jones, il reçoit l'accolade du commissionneur et il dit, c'est exactement ce que je voulais. Il lui souffle à l'oreille. Alors, il y a de la mise en scène à l'américaine. On va revoir ça sur les réseaux sociaux après. Mais c'est ce qu'il voulait. Et il ne faut pas oublier d'où il vient aussi, parce qu'à mon avis, Bill Belichick, voilà, on a beaucoup, beaucoup discuté, mais je pense que lui, il savait le quarterback qu'il voulait. Il connaît tout le boulot qui a été fait avec Alabama. Et donc, il connaissait la valeur réelle. Donc, oui, ça a mis un tout petit peu de temps pour mettre en place. La défense, évidemment, est toujours là. Mais moi, je pense vraiment que les New England Patriots peuvent être une surprise. Maintenant, c'est en train quand même de se confirmer. On l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes, forcément, dans les deux conférences. Mais du côté des Patriots, moi, j'ai quand même été largement impressionnant.
C'est peut-être une chance justement pour eux, c'est qu'il y a autant d'incertitudes, en plus en AFC.
C'est un an plus tard de la comparaison Belichick-Brady. Il y en a un qui a beaucoup moins parlé que l'autre, il y en a un qui a parlé sur le terrain, mais il faut faire confiance à l'organisation de l'équipe. Il n'y a rien à faire. Le front office à New England n'a pas fait...
Ils sont restés fidèles.
Mais exactement, restés fidèles ça n'a pas changé. Et s'ils ne voulaient plus Brady, c'est peut-être quand même pour une... Enfin, ils ne voulaient plus, entre guillemets, on ne va pas rentrer dans ce débat-là encore, mais je veux dire, c'est pas par hasard, en fait. Je pense qu'il y avait un plan B, un plan C. Ils étaient prêts, eux, au changement. Peut-être pas le reste des États-Unis.
Et on parle justement de Tom Brady. On va revenir un petit peu sur lui. Pat, toi qui l'as vu progresser pendant toutes ces années, tu as commenté plusieurs de ses Super Bowls, je pense. Tom Brady, encore et toujours.
Tom Brady, encore et toujours. Et c'est peut-être le moins surprenant ou la moins surprenante des saisons, c'est celle des Buccaneers. On va peut-être revenir sur le premier podcast qu'on avait fait avec Anthony, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais quand on avait parlé des Buccaneers, on s'attendait à ce genre de saison de leur part, ou avec une montée en puissance douce, avec un match lâché à gauche, à droite. Il y a quand même eu un ou deux signaux d'alerte quand même. Mais en tout cas, au niveau de Brady, lui, le niveau est resté permanent. C'est peut-être au niveau de la défense qu'on a des inquiétudes plutôt du côté des Bucks depuis le début de la saison. On leur fait confiance sur ce qu'ils ont montré l'année passée, c'est qu'en play-off et sur les matchs importants, il y a peut-être moyen de tourner le bouton et d'aller au bout. Mais ils n'ont pas rassuré tout au long de la saison. Par contre, oui, Brady, ça reste Brady, ça reste un long fleuve très tranquille et qui sait avoir des rapides de temps en temps pour démonter un adversaire. Donc c'est pour le moment très très bon ce qu'il fait. D'ailleurs, quand on parlera de la lutte au MVP, ne le prenez pas, monsieur, quand on vous demandera votre choix, ce sera le mien.
Messieurs,
on va devoir le défendre alors. Pas MVP, mais on est dans le chapitre MVP direct
ou non, c'est plus tard. Ce sera plus tard.
Brady, mais voilà, on. J'ai toujours aimé le détester, voilà, comme beaucoup de gens, enfin tous ceux qui ne l'aiment pas le détestent. Moi, je suis quand même de moins en moins convaincu. Enfin, voilà, parce que aussi, finalement, il est tombé chez les Bucks où il y avait là quand même aussi déjà quelque chose. Il a joué le facteur X.
Il leur manquait un quarterback.
Ils ont pris le meilleur. Donc, OK, très bien. Je pense qu'il aura peut-être un peu plus d'adversité cette année. J'espère.
Moi, je pense que. C'est toujours. En fait, moi, on est toujours en train de banaliser l'exceptionnel. Oui, et donc, vrai. Moi, je me dis, je le milite justement pour que. Non, justement, on ne commence pas à dire, ouais, c'est toujours la même chose quand on parle d'un Brady, quand on parle d'un LeBron, même d'un Aaron Rodgers, finalement, dans un autre cas de figure. Il commence quand même à durer, lui aussi. Moi, j'ai envie qu'on continue d'insister là-dessus. Moi, bon, le MVP, on en discutera plus tard, mais je ne suis peut-être pas trop du côté de David. Mais surtout, ce que j'ai envie de pointer, en fait, en parlant de Tom Brady, c'est que cette année. Dans son discours, qui a toujours été « j'arrêterai quand je ne serai pas bon, j'irai jusqu'à 45 ans, il en a 44 mm-hmm. », son discours a un peu changé en début de saison. Dans le sens où il disait « maintenant que j'arrive presque à ces 44 ans et que je vois mon niveau, je me dis que je suis capable d'aller à 50, 55 ans ». Et même Bill Belichick dit la même chose. Et on se dit « mais attends, on n'est pas encore parti pour 10 ans ». Sauf qu'il a rajouté quelque chose dans son discours qui est « la famille, il a envie de profiter des siens ». Donc je me dis « tiens, est-ce que finalement… » on ne ferait pas justement bien de continuer à en profiter parce que si ça tombe, il va aller nous faire un back-to-back et après nous dire, vous savez quoi les gars, en fait j'arrête. Je me dis que ça, c'est peut-être une possibilité dont on ne parle pas parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de signes dans ce sens-là, mais quand même, donc profitons-en encore plus.
Ouais, c'est clairement au moment où il partira qu'on verra l'impact qu'il a eu sur la Ligue.
Tu penses vraiment ?
C'est ce genre de... Mais bien sûr, c'est ce genre de légende.
Je pense qu'on connaît déjà là.
On voulait aussi souligner, justement, tu as parlé de Rodgers, on voulait parler aussi de Green Bay et des Cardinals.
Ouais, deux places fortes de la NFC, avec surtout Green Bay qui parvient à être à un niveau similaire à celui de la saison dernière, sachant que Rodgers, c'est pas au même niveau que l'année dernière, justement. Il reste un
pas
bon niveau.
Pas en mode MVP.
C'est ça. Lui, par contre, pour le coup, il n'y a pas de quoi discuter pour le
titre
de
MVP. Moi, je ne suis pas d'accord.
ça, on aime bien.
Mais non, mais bon, la traduction voilà. MVP, mais on y viendra tout à l'heure. Quel est le joueur qui fait la différence que le reste de l'équipe est nul ou presque nul?
Voilà, justement.
Il sort de trois semaines, on est dans le discours MVP, parce que moi, je l'avais noté. Il sort de trois semaines de Covid, il est blessé encore à l'orteil ou je ne sais pas quoi. Et regardez le match qu'il fait encore ce week-end. je dis, mais ce gars-là, arrêtez la discussion. MVP ou pas MVP, enfin, allez, c'est pas possible.
Et qui commence aussi à avoir son âge en plus, nous.
Mais le problème aussi.
La pré-saison, il voulait plus de lui. Il y a un nouveau quarterback.
Lui, il voulait plus d'eux aussi.
Il fout la merde, pardon, il fout le boxon. Et il fait un. Enfin, tout l'été, on a parlé que de ça.
C'est vrai.
Il est là, il a pas fait de préparation.
Et souviens-toi, la première semaine. Hein.
Mais exactement, la première semaine, on l'a dit, c'est terminé, il est fini. La preuve, ils avaient raison, les Packers, la direction, nani nana. Jordan Love, c'est ça, j'avais oublié son nom. Mais non, en fait. Et encore ce week-end, je me suis dit, mais allez, il s'est entraîné peut-être une heure. Je ne sais même pas s'il s'est entraîné. Regarde le niveau qu'il a, quoi.
Je comprends tout à fait, mais la difficulté, c'est qu'on est obligé d'avoir le regard aussi par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière où il était MVP. Et il y a une différence quand même qui est assez importante. Pas assez pour pénaliser l'équipe. Et surtout, moi, je trouve que là où les Packers sont plus forts que l'année dernière, c'est en défense, avec un nouveau coordinateur offensif. Et aussi un joueur qui est beaucoup moins reluisant, beaucoup moins sexy qu'Aaron Rodgers. Et là, je parle en termes de style de joueur, hein, pas physiquement. C'est Devondre Campbell, l'inside linebacker. Ça faisait des années qu'ils en cherchaient un. Il arrive, la défense est meilleure. Vous avez un nouveau coordinateur défensif avec un nouveau système un peu expérimental. La défense est meilleure. Moi, je pense que c'est surtout ça qui fait qu'aujourd'hui, les Packers me semblent peut-être encore plus proches du titre qu'ils ne l'étaient il y a un an avec un Rodgers qui reste à un niveau intéressant et même très bon. C'est juste que c'est moindre que l'année dernière et c'est pour ça que moi j'aurais tendance à le mettre dehors. Mais je vais laisser Pat.
J'allais dire pour vous départager, demandons un petit peu ce que Pat en pense.
Je vais couper au milieu, non, mais je dirais quand même attention aux blessures côté Packers, surtout sur les lignes, ça commence à tomber à gauche, à droite. On se souvient que l'absence de Bakhtiari l'année passée en playoff avait été vraiment prédominante, je pense. Et voilà, il y a des hommes de ligne qui sont en train de tomber du côté de Green Bay pour justement donner cette protection maximale qui permet à Rodgers d'exprimer son talent au mieux. Ce sera un des facteurs très importants pour les Packers de la fin de saison. Ils peuvent tenir pour le moment, mais il ne faudrait pas un ou deux de plus. Et pourtant, la saison régulière et les playoffs, il y a encore du bout de chemin à faire.
Et c'est ça le problème, parce que, et après, pour terminer avec les Packers, en fait, le problème, c'est que l'infirmerie, elle se remplit, elle se vide, elle se remplit de nouveau, et ça, à chaque fois, des joueurs clés, même en défense. Donc, ça sera vraiment le détail. S'ils arrivent en forme, là, il faudra vraiment se méfier. Mais là, il faudra qu'ils arrivent en forme.
Bon, on a hâte, en tout cas, d'arriver au chapitre MVP, ça, c'est sûr. Mais pour faire un petit peu cette transition, on va parler d'une équipe qui nous a déçus en début de saison et qui a un petit peu rebondi. Ce sont, j'ai envie de dire, les Chiefs.
Oui, je pense que c'est vrai que quand on a commencé à préparer une émission il y a une dizaine de jours, ils étaient un peu dans les coups de gueule. Et puis, il y a eu deux victoires contre les Raiders et contre les Cowboys ce dimanche. Et on s'est dit, bon, voilà, il faut les mettre entre les deux. Parce que, comme le dit très bien Tyrann Mathieu, il faut monter en puissance en NFL. Et c'est en novembre qu'il faut être en forme, en décembre, pas en septembre. Et ça, ils le font bien. Mais j'ai envie de dire, les Chiefs, ils sont toujours prétendants. Mais vu ce qu'on voit depuis le début de la saison, il faut s'attendre à ce que si les Chiefs vont au bout cette année, ce sera grâce à leur défense, malgré Patrick Mahomes.
Ouais, moi je suis la première fois que je participe à votre podcast, donc
c'est bien.
Je voudrais mettre les frontières directement. Moi, le Hall of Fame quarterback truc depuis le début avec Patrick Mahomes, ça a tendance à m'énerver. Il n'a jamais que gagné qu'un seul Super Bowl.
Il y a des gens de la communauté qui vont apprécier.
Non, mais c'est vrai. Il a participé à un deuxième, mais là on est en troisième saison et on commence quand même à voir de son côté. Je vais surtout m'intéresser à lui, des décisions parfois un peu bizarres, précipitées, ou genre je suis plus fort que tout le monde, je vais quand même la balancer et si mon tight end l'attrape comme à chaque fois, génial, mais je trouve qu'on commence quand même à avoir les faiblesses. Alors, j'ai pas trop lu ni vu d'infos à ce sujet, mais est-ce que l'état de santé du coach a eu une influence sur les prestations de la franchise? Il y a même eu, je pense, un souci avec son fils aussi,
qui
a eu
un Super Bowl.
Voilà. Enfin, je me suis demandé, tiens, finalement, est-ce qu'il y avait peut-être des raisons autour de ça? Après, ici, on a vu contre les Cowboys, c'est clair que la défense et Chris Jones,
c'est incroyable.
C'est un truc de fou.
Alors
quoi.
Qu'elle était vraiment extrêmement mauvaise en début de saison, il y a une sorte de glow-up, j'ai envie de dire, puisque c'est un terme à la mode maintenant, qui est vraiment, vraiment impressionnant sur ces dernières semaines. Et justement, tu parles de Chris Jones, c'est important parce que, en fait, cette défense, elle a tout pour être bonne quand tu regardes les noms, surtout en sachant ce que tu as en attaque. Je veux dire, tu as Chris Jones, tu as Frank Clark, ils ont rajouté un Melvin Ingram, tu as Tyrann Mathieu derrière. Je veux dire, il y a suffisamment de stars pour dire que derrière, si c'est bien construit, il y a un niveau au mieux, j'ai même plus envie de dire au pire, qui est moyen par rapport à la ligue. Mais là, par contre, justement, Chris Jones était pas mal critiqué par rapport à ses performances. Le match de dimanche, ça change la défense. Hein. Ça change la défense.
C'est vrai que c'est un des matchs étalons qui dissipe les doutes que vous aviez.
Parce que c'est Dallas.
Que c'est Dallas. Et en même temps, à l'inverse, parce qu'on en reparlera à mon avis aussi pour les matchs de jeudi, à l'inverse, pour les Dallas, c'est aussi pour les Cowboys. Voilà, ça donne quand même une mesure de ce qu'ils pourront peut-être faire éventuellement contre une telle équipe en play-off. Quoi.
J'ai une question qui me vient sur Patrick Mahomes. Est-ce que ce n'est pas aussi générationnel le fait qu'on ait tendance à trop vite élever des jeunes joueurs? On voit ça en NBA, on voit ça au foot, on dit qu'il y a Mbappé, c'est le nouveau Messi. On dit Trae Young, c'est le nouveau LeBron. Oui, c'est vrai, ouais. Mais est-ce que ce n'est pas aussi générationnel, Pat? Je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus. On a tendance, dans notre génération réseaux sociaux, à trop vite élever des nouveaux joueurs, à se dire « Ah, c'est le prochain GOAT » un petit peu.
Certainement, mais il y a un problème générationnel, en tout cas un problème d'amplification par les réseaux sociaux, mais c'est aussi historique dans le sport et dans la façon de raconter le sport. On a toujours cherché le successeur ou le nouveau grand de chaque discipline. Hein, pour aller refaire vite une parenthèse foot, il y a des journaux français qui à l'époque disaient de Marvin Martin, un anonyme de Sochaux, c'est le nouveau Zizou. Et ça, c'était déjà, ça ne rajeunit pas, mais il y a une vingtaine d'années. Donc, on en est là.
Tu es le sage de cette émission, Patrick, c'est eux qui l'ont dit.
Ouais, j'essaye. Hein. Donc oui, tout est amplifié par les réseaux sociaux parce que le rabâchage, etc., est beaucoup plus amplifié, beaucoup plus présent. Et donc, toutes les semaines, il y a quelqu'un pour dire quelque chose, pour avoir une vidéo, pour avoir des marques, pour avoir un nouveau réseau social qui se l'approprie. Donc oui, mais c'est aussi historique au sport de s'enflammer, en fait. Et ça fait partie des émotions aussi qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il faut parfois s'enflammer, il faut parfois prendre du recul. C'est ce qu'on essaie de faire dans ce podcast.
Sur Mahomes, ils se sont emballés même avant la première victoire en Super Bowl. Hein,
les actions qu'ils faisaient.
Non, je sais, c'est purée, quoi, les actions.
En fait, les gars anticipaient qu'ils n'allaient plus avoir Tom Brady et donc ils se sont dit qu'il faudrait une nouvelle star.
C'est ça, c'est vrai.
C'est aussi pour vendre, c'est aussi le côté commercial. On avance hein, parce que le temps file un petit peu. Et donc, on va parler des Browns, évidemment, parce qu'on a David avec
obligé,
nous.
Vous êtes obligé, vous me l'avez
appris. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut avancer, parce qu'on sait que là, on en a pris une demi-heure.
On sait qu'on a un petit temps. Donc, les Browns, on les a mis un petit peu dans les déceptions, d'accord ou pas avec nous?
Non, mais tout à fait d'accord, c'est honteux. Je suis un peu supporter des Browns, je suis allé un an comme étudiant d'échange dans l'Ohio à une heure du Lac Erie.
Alors, j'ai toute ma famille question, c'était quand et est-ce qu'ils étaient déjà mauvais à cette époque?
Donc, je réponds d'abord à la deuxième question, ils ont pratiquement été toujours mauvais. C'était avant Bernie Kosar et c'était avant le déménagement ou la vente de la franchise. Donc c'était en 92-93, mon année là-bas. Donc c'était l'année de Troy Aikman, Super Bowl 27 à Pasadena, et Michael Jackson
avec Michael
Jackson. Wow. Donc c'était ça. Moi j'ai vu à la télé là-bas. Mais sur les Browns, moi je vais faire semblant de rien, je vais noyer le poisson. Je suis content qu'OBJ soit parti. Comme ça je vous parle pas vraiment du niveau. Non mais c'est une déception. Après je reste quand même maintenant, j'arrive à en écoutant régulièrement les médias de l'Ohio et de Cleveland, je pense que la plus grosse erreur, c'est Baker, Mayfield, qui va chercher le tackle en deuxième semaine et qui est blessé. Et donc, voilà, moi, je ne comprends pas l'entêtement actuel à le laisser présent sur tous les matchs. Le match de ce week-end contre les Lions ne m'a pas du tout convaincu, alors que franchement déjà avant le match on avait mis la petite croix en disant ce sera une victoire ouf. Dans la division, il faut quand même noter, parce que j'ai revérifié les stats parce que je n'ai pas votre mémoire de jeune, n'est-ce pas Pat, à tous les deux, mais c'est quand même la seule division où les quatre équipes sont au-dessus des 500, quoi. Donc c'est finalement bizarre. Voilà, c'est ce que je me dis oui, on est déçus, les Browns sont décevants. Pourquoi? Aucune idée. Miles Garrett s'est un peu épanché en disant que les choix défensifs, et c'est vrai que moi ce qui m'a plus surpris par rapport à l'année dernière, c'est qu'on n'est jamais surpris en fait. On n'est plus jamais surpris. Alors moi je me dis, moi dans mon fauteuil du fin fond de la Belgique, je ne suis pas surpris ni sur les choix en attaque, ni sur les choix, les plays qui sont appelés en défense, et je me dis mais c'est pas possible en fait. Il y a un moment, il va falloir quand même changer un tout petit peu la manière de fonctionner. Et rapidement, il y a eu les blessures des running backs aussi, forcément, les absences pour Covid, et on sait que de toute façon toute l'attaque était basée sur ce d'ailleurs les chiffres étaient là pour le prouver l'an passé, voilà, avec Hunt et Nick Chubb, l'alternance était parfaite, le duo parfait. Il n'y en a jamais un des deux qui est là avec l'autre cette
saison.
C'est d'autant
plus frustrant quand tu vois en fait toutes les armes qu'il y a à disposition des Browns cette année. Défensivement, il y a ce qu'il faut. Miles Garrett fait une énorme saison. Oui. Entre autres, hein, il n'est pas le seul.
Et puis tout le travail d'Andrew Berry en intersaison a été fait pour améliorer cette défense.
Exactement.
Mais purée, la défense est pratiquement... Enfin non, allez, c'est une des pires de la ligue.
Tu te dis quand même, tu as une défense, tu as un jeu au sol, ok, tu as les blessures. Mais bon, quand Nick Chubb est là, on voit tout de suite la différence, oui. On l'a encore vu ce week-end. Oui. Et en plus de ça... Enfin,
c'était contre les Lions.
Ouais, ok, mais il revenait de blessure aussi. Mais ouais, d'accord, c'est vrai. Mais c'est d'autant plus frustrant qu'en plus, ils gardent Mayfield. C'est pas comme s'ils avaient un backup dont on sait qu'il est capable de rien. Case Keenum, dire l'année où il a été backup, non, il était titulaire, je pense, à Minnesota quand ils vont en finale de conférence. On lui demande pas de faire plus, en fait. Je veux dire, c'est normalement un quarterback qui est censé, surtout dans une équipe pareille, te faire du bon boulot et juste ce qu'il faut en fait pour continuer à gagner.
Et la relation avec le coach, on nous a vendu ça, il y a eu le duel face aux Vikings, on nous a dit Stefanski ceci, Stefanski cela.
Oui, c'était Stefanski à l'époque.
Case Keenum l'a ramené, il a ramené Case Keenum, donc on se dit, mais la solution elle est là. Donc 2-3 semaines de pause sans Baker Mayfield, je ne crois pas qu'on aurait gagné beaucoup plus de matchs, pardon je dis on, mais je ne pense pas qu'on en aurait perdu, plus en fait. Et est-ce donc ça aurait permis de se reposer, de lui permettre de se reposer. Quoi.
Est-ce qu'on a atteint un plafond de verre?
C'est difficile à dire parce que tu as l'aspect blessure, mais je veux dire, avant cette blessure, il faut, c'est méchant, mais aussi voir les limites qu'on a vues de Baker Mayfield.
Oui. Après, oui, mais je le répète, il est blessé depuis la deuxième semaine. Donc
c'est ça.
En fait, il n'est jamais.
Mais même avant ça, je veux dire. Ouais. Et le truc compliqué, je suis désolé, je vais un peu troller, mais truc compliqué avec Cleveland, c'est regardez la liste des quarterbacks depuis 20 ans. Regardez Baker Mayfield, c'est le meilleur d'entre eux. Ouais. Tout simplement.
Ça,
et donc il y a une attache de toute façon. On sait à quel point c'est compliqué d'aller en trouver un.
Et OBJ, parlons un petit peu d'OBJ. Il avait, parce qu'on a déjà cité deux fois LeBron, ça j'aime bien. Odell Beckham. On a déjà cité deux fois LeBron, on va le citer une troisième fois. Il n'a pas réussi à faire ce que LeBron a fait et qu'il avait pourtant promis. Pat, OBJ, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'il soit parti?
Je vais rejoindre David en disant que pour Cleveland, c'est une bonne chose, pour OBJ aussi, et pour la comparaison avec LeBron, je peux l'entendre uniquement sur le côté, oui, il y a une star qui va à Cleveland, mais même OBJ, quand il quitte les Giants pour Cleveland, c'est déjà plus vraiment la grande star, enfin si, c'est une star bling-bling,
tout à fait
c'est
d'accord.
Plus un top joueur, c'est pas le numéro 1 de la NFL quand il va à Cleveland, il y avait une hype Cleveland, à ce moment-là, qui recrutait de bons joueurs, qui recrutait des joueurs stars, et c'était important pour la progression de l'équipe. Et quand tu parles de plafond de verre, je trouve que maintenant, les Browns, ils sont un peu à un tournant de cette histoire mini-récente, c'est de voir est-ce qu'ils ne vont pas, en faisant une saison médiocre comme ici, s'engluer un peu dans ce fameux marasme où on se retrouve un peu au mieux pour les choix de draft.
Mauvaise langue.
c'est important.
Il y a deux matchs, il y a les Ravens back-to-back, il faut faire quelque chose. Miracle ne peut arriver qu'ici, en fait.
Il y a encore moyen d'inverser la tendance, mais je pense
surtout que c'est le bon moment de les taper.
Est clé aussi pour avancer et pour aussi envoyer un signal aux joueurs qu'on veut recruter lors de la free agency ou quoi. C'est on est en progression, on continue de progresser, venez chez nous et vous allez nous faire progresser. S'il y a une saison pourrie qui se termine, je ne le souhaite pas, évidemment, et surtout pas à David, ça risque d'être un peu plus compliqué dans cette fameuse marge de progression.
Je voudrais juste dire un truc, juste par rapport à la comparaison LeBron-OBJ. De toute façon, il faut bien se dire que les seules comparaisons qu'on peut faire réellement à NBA-NFL sont avec les quarterbacks. Un receveur, aussi talentueux soit-il, ne pourra jamais avoir l'impact d'un quarterback. En fait, n'importe quelle autre position. Et le meilleur exemple, on parlait des Lions tout à l'heure, Calvin Johnson. Honnêtement, sur ce siècle-ci, est-ce que c'était pas le meilleur receveur?
Exact.
Est-ce que c'est le meilleur? Si tu dois en sortir qu'un seul, et il y a une fameuse concurrence, je dis
pas. Regardez le Football Life sur le NFL Game Pass qui lui est consacré, il est exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'il va aller faire à Los Angeles? C'est bien parce que pour une fois, Patrick,
il fait le même
c'est pas
que
moi
Lebrun,
qui dois gérer le temps comme le dimanche soir dans une émission de foot.
Je me dis,
on est en train d'exploser le timing. Non, mais allez, il y a Case Keenum. Moi, je veux le mettre dans mes coups de cœur si on a le temps, voir MVP hors quarterback. Mais qu'est-ce qu'il nomme, pardon
Cooper Cup.
Cooper Cup. Qu'est-ce qu'il va aller faire chez les Rams? À part montrer sa Rolls, avec, qu'il a sans doute changé de couleur depuis.
Les Rams, ils se comportent comme une équipe de Los Angeles, tout simplement. Et en plus, il y a la blessure juste après de Robert Woods, donc ils ont besoin d'un numéro 2. Mais il faut le temps qu'ils s'adaptent, parce que ce n'est pas le playbook le plus simple à aller chercher, de Sean McVay. Donc il faut qu'il s'adapte, et il faut qu'on lui laisse le temps de s'adapter. Odell Beckham Jr., le temps... Los Angeles, le temps, il ne l'aura pas. Enfin, désolé pour le doigt, pour le coup, mais c'était vraiment pas volontaire.
Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas non plus.
C'est toujours difficile, c'est surtout qu'il n'est pas dans un mood particulièrement positif ces dernières années, et c'est dommage quand tu vois le talent qu'il a.
Allez, ok, messieurs, on va avancer et on va sortir la dinde du four. Jeudi, vous allez avoir 3 matchs à suivre sur Eleven Sport. Lions Bears à 18h avec Xavier. Ensuite, Cowboys Raiders, ce sera avec toi, Anthony. Copie donc, hein, qui sera au commentaire à 22h30. Et puis, Saints face aux Bills pendant la nuit. Et ça, ce sera en version originale. Messieurs, qu'est-ce qu'on s'attend de ce jeudi ?
Bears Lions, rien.
Il est mauvais.
Il vend bien. En tout cas, il vend bien.
Il a super bien vendu. Les Lions vont gagner et le coach de Chicago va se faire virer. Donc comme ça, ce sera au moins un happening.
Après,
pour Thanksgiving.
Allez, sérieusement, Justin Fields, ça reste très intéressant, le quarterback de Chicago. C'est un des rookies, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés en plus à Chicago. Et bon, je trollais volontairement juste avant. Détroit, on le voit chaque semaine, il n'y a pas beaucoup de talent. Ils sont vraiment au tout début d'une reconstruction, mais ça se bat. Hein. Donc,
et ça passe à pas grand-chose.
Ça passe rarement à grand-chose. Ouais. Hein. Donc, on s'attend parfois, et sur Eleven, les derniers dimanches, on a eu souvent des grosses affiches où on a été déçus par la qualité. Et c'est peut-être l'effet inverse qui va se présenter, hein, cela dit.
Ensuite, Cowboys Raiders, là, c'est déjà un match, c'est déjà une plus grosse affiche, on va dire.
Oui, Dallas qui doit se reprendre. Mais on a déjà pas mal parlé de Dallas. Je voudrais juste mentionner le travail d'un Micah Parsons, puisqu'on est dans les rookies, encore dimanche, si j'ai eu l'occasion de faire ce match. Il est impressionnant. En fait, il joue déjà comme un vétéran, alors que c'est un rookie, je trouve. Et dans les stats avancées, on voit qu'il est déjà, sur les dernières semaines, en train de tutoyer des TJ Watt, des Josh Allen, le defensive end, pour le coup. Ce genre de grand joueur déjà bien reconnu en défense. Pour Las Vegas, ce qui est dommage, c'est que bon, c'est une saison qui était bien partie.
C'est agité.
Mais c'est agité, hein. Entre John Gruden et Henry Ruggs.
C'était un petit détail stat. Les 6 équipes ont perdu ce week-end, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est déjà arrivé souvent. Il faudrait aller voir. Je n'ai pas eu le temps d'aller revérifier. Mais se présenter en jeudi Thanksgiving avec les 6 équipes qui ont perdu le week-end d'avant, ça n'arrive pas souvent. Moi, j'attends une réaction de Dallas. Je pense que ça va le faire. Et puis, Buffalo. Comme ça, je te fais la transition aussi entre
parfait,
les coups de cœur.
Ça revient.
Les défaites, les favoris pour le Super Bowl. Les Bills, c'est quand même drôlement rentré dans le rang. Et finalement, est-ce que ce début de saison qui était très difficile et qu'ils ont, ils sont passés à travers ça très brillamment, est-ce que finalement les Buffalo Bills restent un favori pour le titre dans la conférence et pour le Super Bowl? Donc
Et justement, Pat voyait les Bills dans le premier podcast NFL qu'on avait fait. Pat, toi, tu voyais les Bills au Super Bowl. Tu nous avais dit Bills contre 49ers, si je me rappelle bien.
Alors... Remise en contexte, je passais deuxième derrière Anthony et j'avais dit que je ne dirais aucun de la même chose que lui.
C'est vrai.
Je prenais des risques et j'allais vers des scénarios un peu alambiqués. Attention, remise en contexte. J'avais aussi dit Russell Wilson MVP. Donc,
On a oublié les Seahawks dans les déceptions.
J'ai dû les passer parce qu'on n'avait pas le temps. Mais du coup, les Bills.
Oui, ben les Bills, oui, c'est décevant. C'est décevant parce qu'ils avaient tout. On a l'impression qu'ils ont encore tout. C'est un peu les Browns. Les Browns sont un peu les Bills du pauvre, si tu vois ce que je veux dire. Donc les Bills restent quand même un peu plus haut.
Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir partir avant la fin.
mais voilà, ils ont tout. On a l'impression qu'il y a quand même une bonne recette qui est là. Il y a tout plein d'ingrédients, mais ça prend pas. Ça prend moins bien que la saison dernière. Après, ils ne sont pas hors course non plus. On est dans les conclusions de l'instant, dans les conclusions du moment. En play-off, tout peut se passer dans un sens comme dans un autre. On sait bien que c'est des matchs à élimination directe. Donc, tout peut se passer. Il n'y a rien de super mal fait, mais ils ne donnent pas de grands signes encourageants non plus.
Bon, eh bien, parfait. Max,
si je peux terminer sur les
Bills.
Avec plaisir. Cette saison, ils sont à 6 victoires, 4 défaites. Le nombre de victoires face à une équipe au bilan équilibré?
Une.
Et alors, surtout, et Kansas City.
La suite du calendrier, c'est de mémoire aussi, les 4 prochains matchs, je crois qu'il y a j'ai peur de dire une bêtise, j'ai pas su vérifier, mais je pense qu'il y a les Titans, il y a les Colts, et il y a une double confrontation, mais je pense que les 4 prochains...
Les Colts, ils viennent de les battre, justement.
Donc, ou alors je confonds avec Dallas, mais, peut-être.
Enfin, quoi qu'il arrive...
Je pense que, pour les Bills, je pense qu'effectivement, ici, les 2-3 prochaines... rencontres vont être très importantes. Et puis la division, quoi. On a parlé des Patriots tout à l'heure.
Et leur problème, c'est le jeu au sol. Allen qui a un moins bon niveau. Et en fait, la défense, on pensait qu'elle était bonne et je pense qu'elle l'est toujours. Mais elle a du mal à mettre la pression sur le quarterback. C'est quand même souvent rédhibitoire dans la NFL actuelle. Et le problème aussi, c'est que maintenant, il faut voir toutes ces statistiques et les mettre dans le contexte donc, d'un calendrier assez simple jusqu'à présent, et malgré ça, ils sont qu'à 6 victoires pour 4 défaites. C'est peut-être la plus grosse déception de la saison, parce que l'année passée, ils étaient en finale de conférence, on s'attendait, et c'était peut-être la bonne année pour eux aussi, quand on voit à quel point c'est ouvert en AFC, pour retourner au Super Bowl.
Bon, vous l'aurez compris, jeudi, il va falloir être présent sur Eleven Sports parce qu'il va y avoir du spectacle. En attendant, moi j'ai envie de revenir en arrière, faire un petit flashback, hein, voilà, un rétro-pédalage. On avait fait une première émission, David, et les deux gaillards qu'on a avec nous nous avaient donné leur prédiction. Ils avaient tous les deux, tout de suite, annoncé Mahomes MVP. Ah. Alors qu'est-ce qu'on en pense maintenant, David ? J'ai envie d'aller vers toi d'abord.
Je déteste ce titre de MVP pour la NFL. Vous savez que je suis beaucoup les sports américains, j'adore, mais je trouve que voilà, ça colle plus à la NBA qu'à la NFL. Petite discussion et débat, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Voilà, on a parlé de Brady parce que voilà, c'est Brady, il sort encore d'un titre. Moi, je suis désolé. Aaron Rodgers, quand on voit la saison, quand on voit le déroulement de la saison, tout ce qui s'est passé avant, pendant, et regarder les résultats des Packers maintenant, je trouve que c'est sans doute le facteur X, celui qui réellement porte le reste de l'équipe vers ses résultats, en fait. Donc, moi, je vais plus pour Aaron Rodgers. Mais alors, après, c'est l'éternel débat du MVP. De toute façon, ce sera un quarterback. Donc,
En fait, ce qu'il faudrait, c'est que Jonathan Taylor, du côté des Colts,
ouais,
sur une bonne série,
mais ils lui donneront
bien,
jamais.
C'est pas assez clinquant à côté des autres, non.
Mais même Cooper Kupp, on en a parlé deux secondes. Il le mériterait peut-être encore plus.
Celui qui faisait des grosses saisons ces dernières années et qui aurait peut-être dû être dans la discussion et qu'il était parfois, c'était Aaron Donald. Cette année, il est un peu moins dedans, c'est dommage. Parce que s'il fait une saison digne des autres
années... Imaginez un défenseur MVP, voilà.
Je pense que Pat voulait intervenir.
Non, je voulais donner un nom aussi comme ça et surtout dire que la course au MVP en fait reflète complètement ce qu'on a dit en début d'émission sur les équipes. Ça n'a jamais d'habitude, à ce stade-ci de la saison, il y a 3 candidats max. Ici, on peut élargir une grosse liste à 5, 6, parce que le niveau est très condensé. Si les Cowboys continuent, moi, je mettrais peut-être ma petite pièce sur Dak Prescott aussi, sur ce côté flamboyant, Cowboys. Il est de moins en moins jeune aussi, Prescott, mais voilà, c'est un joueur qui monte et ça pourrait faire un beau MVP. Mais
et on parlait des rookies. Alors, d'un côté, j'avais Trevor Lawrence, balancé par Anthony Coppi, et puis j'avais...
Ah si, oui,
Mac Jones, oui, il faut assumer maintenant, Anthony. Et puis de l'autre côté, j'avais Pat qui nous avait dit Mac Jones. On en pense quoi de ce côté ?
Moi, là, je suis chez Patrick, évidemment, mais j'y croyais pas du tout.
J'avais pu parler en premier cette fois-là, donc.
Mais Trevor Lawrence, vous pouvez le mettre aussi peut-être dans les déceptions, Mais ça, c'est la draft en trompe-l'œil, quoi. Mm-hmm. C'est toujours pareil. Il faut voir où il va débarquer, avec qui.
Et tu vois la différence avec Jones. Jones, il est dans une bonne organisation avec une équipe prête.
Exactement.
Lawrence, il arrive, c'est le désert. Pourtant, il n'y a pas de désert en Floride, mais là, il est seul avec du monde autour. En fait,
Urban Meyer qui sortait, c'est ça, qui sortait. Problèmes à Ohio State, qui a toujours été un excellent coach en collège, mais j'y croyais pas du tout en NFL. En plus, avec un rookie quarterback, c'était pratiquement voué à l'échec d'avance.
Je vais donc changer, moi, du coup.
Ah, qui ?
Mais je vais pas aller vers Mac Jones. Je respecte beaucoup ce qu'il fait, malgré tout, mais pour moi, il y a un rookie qui a eu encore plus d'impact que lui. C'est Ja'Marr Chase, receveur des Bengals. Il y a une vraie connexion qu'il y avait déjà à l'université avec Joe Burrow. Il est incroyable. Franchement, incroyable. Lui, on parlait déjà de Micah Parsons côté défensif, où là, il n'y a pas de débat pour le rookie de l'année. Mais Chase, il arrive, c'est un receveur, il est drafté très haut. Et à eux deux, ils donnent une allure à cette attaque vraiment hyper, hyper impressionnante, je trouve. Et ils sont encore en course pour les playoffs en plus. Donc moi, j'irai pour Ja'Marr Chase.
Ouais, mais ils sont dans la division de l'Ouest.
Oui, je sais.
Moi, je ne peux pas dire du bien d'un Bengal. Faut pas rire quand même.
C'est interdit, Bon, merci Anthony, seul avec du monde autour. Très belle référence à Aurel San. Il l'avait promis, Anthony, et il l'a fait. Messieurs, on a dégusté la dinde, elle était parfaitement bonne. Et maintenant, on va passer au dessert et j'ai réservé une petite surprise parce qu'on a David Oudrey avec nous. Aïe. Et donc, je me suis dit, en un mot, je vole et j'assume complètement. Alors, en un mot, cette saison est...
C'est l'instant Pascal Chimé du
potiron. Elle est potiron.
Elle est potiron. Ok. Est comme potiron. Ça, vous avez le temps de réfléchir, les autres. Hein. Alors.
On a la même question, nous, du coup.
Ah oui, bah oui, bien sûr.
Bah, elle est exceptionnelle.
Ok. Pat.
Elle est loin d'être finie.
Ouh.
Un seul mot.
Je peux quand même expliquer mon potiron.
Oui.
Pumpkin pie, Thanksgiving, le dessert traditionnel, et on la découpe en morceaux. Et on ne sait jamais quel morceau choisir. Et il y a tellement de choix cette année dans cette tarte découpée que très compliqué de choisir le bon morceau de la pumpkin pie en dessert à Thanksgiving.
Waouh.
C'est beau. C'est beau. Franchement, non, parce que je n'avais pas compris très, perso. Très
donc, la meilleure équipe jusqu'à présent, Anthony, c'est
Arizona.
Ok.
Oh, on n'en a pas encore parlé.
Arizona, et justement, on n'en a pas
comment
encore parlé.
Comment on ne parle pas plus
ce qu'ils font, ce qu'ils font pour l'instant, sans ni Kyler Murray, ni DeAndre Hopkins. Ils ont quand même gagné deux matchs, hein, sur les trois qui jouent sans eux. Respect, et ça en dit long sur le travail du coach Cliff Kingsbury. Vrai candidat au titre, hein, Arizona.
C'est plus qu'un mot, ça.
Tu l'as pas mentionné, Max, mais j'en avais quand même dit que dans mes surprises, pourquoi je mettais Arizona cette année. Hein.
C'est
facile de dire sur ce en quoi on s'est trompé, mais il faut dire aussi sur ce en quoi on a raison, surtout quand c'est rare.
Pat, la meilleure équipe du moment.
Bah, comme je ne peux pas dire le même mot qu'Anthony, mais que je suis d'accord avec lui, je vais dire les Cardinals.
Ok.
Très bon. Cleveland. Non, je rigole, mais les Titans, on n'en a pas encore parlé. Tennessee.
Ok.
Ça dépendra de Derrick Henry s'il revient.
Exact.
Pour voir jusqu'où ils iront.
S'il revient éventuellement pour les playoffs, j'ai vu.
C'est ce qu'ils espèrent.
On va commencer par Pat avec celui-là. Le plus gros flop, c'est.
C'est l'extra sportif.
Ouais. Ok. Voilà.
De cette saison.
Ah oui, mais pourquoi? Parfait. Moi, je ne peux pas savoir pourquoi. On manque de temps, mais je voulais savoir pourquoi.
On peut demander pourquoi.
Parce qu'il y a les histoires aux Raiders qui sont quand même catastrophiques. Il y a même le comportement d'Aaron Rodgers par rapport au Covid, etc. Il y a les faux certificats à gauche, à droite, etc. Donc voilà, beaucoup d'extra-sportifs dont ce serait bien passé.
Cleveland. Là, c'est plus facile et je ne peux pas mentir.
Ok, ouais, le champion...
J'ai pas le droit.
Anthony, il n'a pas parlé de son flop.
Excuse-moi, Anthony.
Quand même. Seattle.
Okay.
Seattle, j'avais
c'est
dit.
C'est vrai qu'il était, là, il était dans mes notes en plus.
Là,
hein.
C'est triste parce que Pete Carroll, on s'attache à ce personnage, c'est quand même quelqu'un en NFL et ce qu'il a fait est excellent sur cette dernière décennie. C'était pour moi l'un des trois meilleurs coachs de la dernière décennie. Mais là, je pense qu'il est temps de passer à autre chose parce qu'on a les mêmes problèmes qui arrivent depuis plusieurs années. Et voilà.
J'ai entendu une question, désolé à Max, je t'expose ton timing.
Oui.
Quelle sont la communauté de fans qui va être la plus déçue? Est-ce celle des Seahawks, du duo Russell Wilson-Pete Carroll ou Peyton et Drew Brees à New Orleans? Parce que finalement, ces duos-là...
C'est une excellente question.
Finalement, comment choisir dans la plus grosse déception des deux? Parce que voilà, il n'y a eu qu'un Super Bowl.
Moi, je dirais New Orleans.
Quoi.
New Orleans, ils ont été plus souvent proches et surtout ces dernières années. Et il y a aussi des événements en play-off, il ne faut pas l'oublier, même si ça n'explique pas tout, mais qui n'ont vraiment pas tourné à leur faveur. On se souvient de cette fameuse finale de conférence face aux Rams, même si derrière, ils ont l'occasion de se faire justice. Et c'est ce que j'avais défendu cette idée-là aussi en direct parce qu'on avait fait ce match. Mais en attendant, ce call, il ne doit jamais avoir lieu.
Oui, mais depuis, ils balancent les flags. Vous approchez d'un défenseur ou inversement,
donc,
il y en a un qui tombe.
Moi, j'irais les Saints, mais c'est une très, très bonne question. Les deux, c'est une grosse déception. Un seul titre, on ne s'y attendait pas. On s'y attendait à plus. Hein. Surtout peut-être Seattle, encore, parce qu'ils avaient une grosse, grosse dynastie. Et derrière, ils sont souvent allés en play-off, c'est bien, mais bon.
Ok. Messieurs, dernière question. Anthony, je vais commencer par toi, vu que j'ai failli t'oublier. Je m'excuse,
Merci. Évidemment.
Il faut regarder Thanksgiving sur Eleven Sports parce que...
Parce que la NFL en direct à partir de 18h30, avec seulement un match, c'est une bonne manière aussi de se mettre en jambes. Il y a des équipes avec beaucoup d'enjeux, il y a des joueurs intéressants partout, je parlais de Justin Fields, je parlais de Dallas, offensivement c'est censé être un superbe show. Il se passe toujours quelque chose à Thanksgiving, il y a toujours une action d'éclat, hier c'était les 9 ans du fameux butt fumble. Il faut savoir que des fois, il y a des joueurs, ils foncent dans les fesses de leur équipier et ils perdent le ballon comme ça.
Marc Sanchez, c'est ça.
Bon, c'est incroyable. Ouais. Mais elle est incroyable, cette vidéo.
Okay.
Donc voilà, il se passe souvent des choses assez intéressantes. Et surtout, il faut attendre, voilà, pas forcément se laisser avoir. Si le premier match est décevant, ben le deuxième ne le sera pas forcément et tout. Et inversement aussi, hein, qui sait.
Plus ou moins 215 mots, je te remercie.
C'était en un seul mot.
Bien sûr. Pat,
faut le
en
répéter.
Un mot.
Hein.
Ouais, mais c'est tiré entre chaque mot.
Mais j'ai pas encore l'habitude, en fait.
Je comprends. J'essaie. Faut le répéter parce que sinon, vous n'avez jamais de réponse en un seul mot.
Pat.
Parce que les commentateurs, évidemment, salutations à Xavier qui lancera la soirée, puis Anthony, et puis dans la nuit en VO avec toute l'expertise américaine, donc il y en aura vraiment pour tous les styles. Comme
il dit les commentateurs alors qu'il n'est pas là, hein. je précise.
Sinon je ne l'aurais pas dit.
David, pour
parce
terminer.
Que vous n'avez pas le choix, parce que je suis invité aujourd'hui par Eleven, merci de votre invitation, et donc ne manquez surtout pas, surtout parce que le plaisir est plus long. Bon, certes, il y a toujours un match le jeudi, mais là vous en avez 3, donc le plaisir vient tout petit peu plus tôt dans la semaine pour vous les fans de NFL.
Eh bien voilà, c'est parfait pour terminer ce podcast. On a pris un petit peu plus de temps, mais voilà, on s'est fait plaisir pour ce petit repas entre nous. J'espère en tout cas de votre côté, de l'autre côté, que ce soit en podcast ou sur YouTube, que vous avez apprécié ce contenu. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui. On se dit à très très bientôt pour encore plus de sport américain, de Made in USA, de NFL. Bon Thanksgiving à tous et à très bientôt. Ciao !